Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans Du Grain à Moudre, une émission préparée par Fanny Richer, Céline Leclerc, Sarah Petitbon, Léo Robin, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Ariane Herbé. Vladimir Poutine n'étant pas ce que l'on peut appeler un personnage exubérant, il y a peu de chances de le voir reproduire le coup d'éclat d'un de ses prédécesseurs à la tribune de l'ONU. Souvenez-vous, Nikita Khrouchtchev, en 1960, brandissant sa chaussure avant de l'abattre sur son pupitre pour marquer sa désapprobation après des propos critiquant la politique expansionniste de l'URSS. Vraiment pas le genre de Poutine. Pour autant, si le style est différent, le président russe n'est-il pas le digne héritier des anciens dirigeants soviétiques, exception faite de Mikhaïl Gorbatchev, à savoir un adepte du Niet comme élément central de sa politique étrangère. Ainsi sur la Syrie, Moscou n'en démord pas, pas question de laisser passer la moindre résolution défavorable au régime syrien au Conseil de sécurité de l'ONU. La diplomatie russe, échaudée par la guerre de l'OTAN en Libye et par ses conséquences, se retranche derrière la menace islamiste pour maintenir son soutien à Bachar al-Assad. N'y est encore s'agissant de la poursuite du désarmement nucléaire, c'était pourtant un des acquis importants du rapprochement entre Moscou et Washington, la signature en mars 2010 du traité New Start de réduction des armes stratégiques. Mais il est vrai qu'à l'époque, Poutine n'était pas encore redevenu président. Aujourd'hui, Obama voudrait aller plus loin. Au Kremlin, on lui fait comprendre que le sujet n'est pas d'actualité. Il y a enfin le cas Edward Snowden, l'homme qui a révélé le système de surveillance mis en place par les États-Unis. Snowden, toujours bloqué dans un aéroport moscovite, qualifié de dissident par Moscou. La Russie ne livre jamais personne, vient d'ailleurs de déclarer le président russe. Alors jusqu'où Poutine est-il prêt à en découdre ? C'est notre sujet du jour. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir trois spécialistes de la politique étrangère russe pour parler de cette question. Anne de Tinguy, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur des universités à l'INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales. Vous êtes chercheur au CERI Sciences Po. Vous avez notamment dirigé Moscou et le monde, l'ambition de la grandeur, une illusion. Vous posiez la question aux éditions Autrement en 2008. Pour discuter avec vous ce soir, Thomas Gomard, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du développement stratégique et directeur du centre Russie NEI. NEI pour ?
Nouveaux États indépendants et pour ne pas parler de CEI, Communauté des États indépendants.
Et vous l'êtes ?
Pour faire plaisir aux Ukrainiens et aux Géorgiens.
Il faut toujours penser aux Ukrainiens et aux Géorgiens. Et vous l'êtes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et puis notre troisième invité se trouve au téléphone depuis Moscou. Il s'agit d'Arnaud Dubien. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou, un observatoire qui vise à faciliter la compréhension entre les deux pays. Je résume à l'extrême. Hein, et observatoire qui vient de publier son rapport annuel aux éditions du Cherche Midi. Alors j'aimerais débuter cette émission avec vous trois en évoquant le cas Edward Snowden qui depuis une semaine est donc bloqué dans une zone de transit à l'aéroport de Moscou Cheremetyevo. Il attend un éventuel, ou en tout cas un hypothétique visa russe pour pouvoir rejoindre l'ambassade d'Équateur qui lui a promis l'asile si jamais il arrive justement à rejoindre cette ambassade. Vladimir Poutine aujourd'hui a évoqué le cas d'Edward Snowden en disant deux choses qui apparaissent contradictoires. La première, c'est la Russie ne livre jamais personne. La deuxième, c'est Snowden peut rester en Russie s'il cesse de faire du tort aux États-Unis. Est-ce que ces déclarations de Vladimir Poutine, Thomas Gomard, ne traduisent pas avant tout un énorme embarras ?
Je ne sais pas si c'est un embarras. Je pense que l'embarras sur le cas Snowden est plus, beaucoup plus perceptible aux États-Unis et en Europe qu'en Russie en réalité. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à cette affaire, qui dépasse très largement le cas Snowden. C'est le fait que dans le prolongement des actions de Julian Assange, vous avez désormais des gens qui sont prêts d'une certaine manière à dédier leur vie à la cause du web et à la démocratisation du web. Et Snowden en est un exemple. Alors il se trouve qu'il est actuellement en Russie, il aurait pu être ailleurs, mais je ne pense pas qu'il faille surinterpréter le cas Snowden dans le cadre russo-américain. En revanche, c'est intéressant de souligner l'importance grandissante que les autorités russes, accordent aux questions numériques sur deux plans. D'abord, vous avez depuis plusieurs années un renforcement des capacités en matière de contre-influence violence sur le web mise en place par les autorités russes, parce qu'il y a une certaine crainte par rapport au mouvement de démocratisation précisément lancé via le web et qui s'est exprimé avec les manifestations de décembre 2011 et de mars 2012. Et puis vous avez des prises de position diplomatiques de la Russie extrêmement fermes sur le sujet, qui se sont notamment exprimées en décembre 2012 dans le cadre de l'Organisation internationale des télécommunications, où la Russie se retrouve sur des positions similaires à celles de la Chine, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Soudan, de l'Algérie, et qui vise au fond à mettre en place une gouvernance du numérique par les États. Autrement dit, je pense que le vrai sujet, c'est beaucoup plus la question du positionnement de la Russie sur les questions numériques plutôt que le cas Snowden.
Est-ce que c'est aussi votre avis, Anne de Tinguy ?
C'est-à-dire que moi, je ferais un petit peu plus une analyse qui est différente. On a un cas Snowden, une affaire Snowden, après avoir eu une affaire Magnitsky auquel les Russes ont répondu par l'interdiction des adoptions d'enfants russes par des familles américaines. On a bien sûr, vous l'avez rappelé en commençant, ce problème très grave de la Syrie sur laquelle la Russie n'est pas du tout en accord avec les positions occidentales. On a le problème du bouclier antimissile. Enfin, on a toutes sortes de dossiers qui opposent la Russie, les pays européens, les États-Unis. Alors d'abord, on va en voir, le cas des États-Unis n'est pas celui des Européens. Mais je voudrais tout de suite rappeler, parce que ça va mal. Et donc, on insiste sur ce qui va mal. Je voudrais
insister. Vous dites ça va mal, vous voulez dire ça va mal entre la Russie et le reste du monde
bien. Oui, clairement.
Et les Occidentaux,
vous l'avez dit, M. Poutine a un langage, un discours qui est parfois assez brutal à l'égard des pays occidentaux. Mais vous l'avez très bien noté aussi, en même temps, il a un langage qui est très ambivalent. Vous avez dit, dans l'affaire Snowden, il ne veut pas faire de tort aux États-Unis. En fait, je crois vraiment que depuis 1991, il y a deux logiques qui s'opposent dans les relations entre la Russie, les pays européens, les États-Unis. Il y a d'abord et avant tout une logique de coopération et de partenariat. Et ça, ne l'oublions pas, parce que c'est une logique de fond qui s'est développée dans toutes sortes de domaines. Il y a une autre logique qui complique la première, qui est une logique de concurrence, parfois de compétition, de distanciation, de conflit, qui est elle aussi très marquée. Et selon les moments, eh bien, l'une l'emporte sur l'autre. Mais il est toujours très important de rappeler que les deux existent. Alors après, ça pose beaucoup de questions, je vais m'arrêter là.
Oui, parce que les questions, on va les poser par la suite,
vous inquiétez pas. Je pose juste les questions, comment on en est arrivé là? Et puis d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire pour les relations, nos relations avec la Russie et les relations de la Russie avec les autres pays du monde?
Pour rester sur cette alternance des relations que la Russie entretient, en particulier avec les Occidentaux, vous qui vous trouvez à Moscou, Arnaud Dubien, est-ce que vous considérez que Vladimir Poutine pourrait être tenté aujourd'hui d'utiliser cette affaire Snowden à son profit, ou bien est-ce que c'est la logique de coopération qui va primer, le président russe se disant « je n'ai peut-être pas intérêt à me fâcher avec les États-Unis sur ce sujet précis ».
Oui, absolument. Vous avez évoqué le terme d'embarras. Je crois effectivement que les autorités russes, en particulier Vladimir Poutine, est assez embarrassée, car cette affaire arrive à contre-temps. À contre-temps parce qu'effectivement, comme l'ont dit Anne de Tinguy et Thomas Bomar, il y a eu de très sérieux problèmes entre les Russes et Américains, notamment fin 2012, autour de l'affaire Magnitsky et des mesures de rétorsion russes. Or, ce que l'on observe depuis quelques semaines, et en particulier depuis la mi-avril et la visite à Moscou d'un conseiller d'Obama, c'est au contraire une logique de non pas de dégel, mais disons de rapprochement, de volonté de normalisation. En fait, ni Poutine ni Obama ne souhaitent rester à ce point bas des relations atteintes fin 2012. Et cette affaire Snowden, qui aurait pu être utilisée, je pense, de façon extrêmement virulente et extrêmement opportuniste fin 2012, elle arrive à contre-temps. Manifestement, Poutine n'était pas demandeur de ce genre de complications, pas en ce moment. Il y a évidemment à Moscou des gens qui souhaite utiliser cette affaire, qui souhaite en particulier utiliser cette affaire dans des termes dans une optique opérationnelle, débriefer Snowden sur ce qu'il sait. Il y en a d'autres qui suggèrent de marchander Snowden contre, par exemple, M. Victor Bout, qui a été condamné et emprisonné aux États-Unis.
Oui, parce que ça doit être extrêmement tentant de se servir justement de cette affaire-là et de ce personnage précisément pour essayer d'obtenir des informations et puis peut-être s'en servir de monnaie d'échange.
En tout cas, ce serait logique, mais encore une fois, ça arrive à contre-temps et ce n'est pas le scénario. Je suis très frappé par la modération des propos de Poutine. Et à la place de Snowden, je me ferais un petit peu de soucis. Manifestement, l'aéroport de Moscou n'est pas un havre de paix.
Thomas Gomard.
Oui, encore une fois, moi, je pense que ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est ce qu'elle révèle du dispositif mis en place par les États-Unis et que les Européens découvrent ou font semblant de découvrir pour certains d'entre eux. Je pense que c'est ça la vraie question de politique étrangère, beaucoup plus que le cas individuel de Snowden. Et le deuxième élément, c'est que je pense que c'est intéressant de voir quelles sont les positions russes en termes de cyberdéfense ou de gouvernance du numérique révélées à la faveur de cette affaire.
Quand quelqu'un, comme par exemple, alors c'est pas Poutine qui parle, mais c'est le chef de la commission des affaires étrangères de la Douma, le Parlement russe, Alexei Pouchkov, dit, alors il parle d'Edward Snowden, mais il parle justement, comme vous le disiez tout à l'heure, Thomas Gomard, de Julian Assange, de Bradley Manning. Il dit, ce sont les nouveaux dissidents, ils combattent le système. Alors ça fait évidemment sourire d'entendre parler le pouvoir russe de dissidents à propos de citoyens américains qui combattent le système.
Ouais. Effectivement, le terme dissident est très connoté. Cela étant, je pense que ces propos mettent le doigt sur une vérité très profonde, qui est, encore une fois, le fait que vous avez désormais des organisations, des individus qui sont prêts à tout, c'est-à-dire à mettre leur vie en cause pour combattre la raison d'État. Là, ça se joue contre les États-Unis, ça se jouera peut-être demain contre la Russie, contre un pays européen après-demain.
Mais ce qui pourrait peut-être expliquer la prudence de Poutine,
oui,
en disant ça pourrait aussi se passer chez nous.
Bien évidemment, puisque WikiLeaks a aussi des relais en Russie, sauf que jusqu'à présent, les poursuites sont peut-être moins publicisées quand il s'agit de Russes sur le territoire russe que quand il s'agit de quelqu'un comme Snowden qui arrive à quitter le territoire américain. Donc encore une fois, je crois que le vrai sujet, c'est plutôt la manière comme des activistes liés à WikiLeaks sont en train de modifier le jeu international et de remettre en cause la raison d'État.
Anne de Tinguy, pour comprendre la politique étrangère russe, il faut comprendre cette dimension-là, c'est-à-dire que tout passe par la protection de l'État en Russie sous l'ère Vladimir Poutine.
Vous voulez dire des intérêts nationaux. Alors, ce qui est très important dans ce que vient de dire Thomas Gomard, c'est qu'on a une situation qui est très évolutive. On ne peut absolument plus, vous voyez, la question de se demander est-ce qu'il y a un retour à la guerre froide ou ce genre de questions, c'est vraiment totalement dépassé.
Et ça veut dire qu'il n'y a pas de doctrine de politique étrangère en Russie, par
exemple ? Ah non, non, je n'ai pas du tout dit ça.
Parce qu'évolutif, ça peut vouloir dire que c'est une diplomatie qui s'opère uniquement en réaction par rapport à ce qui se passe, mais qu'il n'y a peut-être pas de ligne directrice.
Parce que la Russie est confrontée, notamment le pouvoir russe actuel, à mon avis, à des difficultés non négligeables pour préciser en effet la place de la Russie dans le monde, notamment parce que il y a en Russie une certaine nostalgie de la puissance, une certaine nostalgie de la grandeur, et que ce sont des éléments qui marquent très fortement la politique étrangère de la Russie. Quand j'ai voulu parler d'une situation évolutive, j'ai voulu dire que le monde change. Et que la Russie change elle aussi dans un monde qui change. Et ça, on le voit très très bien dans tout ce qui concerne Internet et le web, mais aussi dans d'autres domaines.
Alors je vais me permettre de vous citer, Anne de Tinguy. En 2009, vous écriviez « Près de deux décennies après l'effondrement de l'URSS, la persistance d'un syndrome post-impérial continue à brider sa capacité à renouveler les fondements de sa politique. » Vous diriez que quand 4 ans après, c'est un peu moins vrai et que la politique étrangère russe réussit davantage à être plastique et malléable.
Non, j'écrirai encore exactement cette phrase telle que je l'ai écrite. En fait, en Russie, il continue à y avoir deux politiques étrangères. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'il y a une politique étrangère spécifique à l'égard des pays ou de certains des États de l'espace post-soviétique. Et ceux qui me connaissent savent que je travaille particulièrement sur la question de l'Ukraine. Et la relation entre la Russie et l'Ukraine est quelque chose de tout à fait étonnant, parce que ça, l'Ukraine, aux yeux de la Russie, est un État qui est tout à fait spécifique et la Russie ne peut pas oublier, ne peut pas faire le deuil de la période où l'Ukraine faisait partie de l'Empire russe. La Russie a à l'égard de l'Ukraine des attitudes qui sont des attitudes parfois totalement inacceptables parce que de type, alors certains appellent de type colonial, impérial, tout ce que vous voulez, mais enfin a beaucoup de mal à considérer que l'Ukraine est véritablement un État indépendant, un État complètement indépendant qui, par exemple, pourrait se tourner vers l'Europe ou l'Alliance Atlantique. Enfin, la question n'est plus d'actualité aujourd'hui, mais à un moment, on en a beaucoup parlé. Et ça, ce sont des choses qui sont totalement inacceptables.
Mais vous disiez deux politiques étrangères.
Oui, parce que la politique étrangère et les règles, je dirais, qui régissent la politique à l'égard de l'espace post-soviétique, qui lui-même n'est pas monolithe, sont différentes des règles qui régissent les relations avec le monde extérieur.
Arnaud Dubien, est-ce que le problème de la politique étrangère russe aujourd'hui et de Vladimir Poutine, ça n'est justement pas de ne pas avoir suffisamment réussi à se placer dans la dimension post-soviétique, mais d'être encore justement extrêmement marqué par cette nostalgie de la puissance et en particulier de la puissance soviétique?
Oui, il y a un souvenir de la grandeur, une nostalgie de la grandeur. Au demeurant, ce n'est pas propre à la Russie. Je crois que la France et la Grande-Bretagne, qui sont également d'anciens empires, ont connu ce type de traumatisme. Le traumatisme est plus difficile à régler dans le cas de la Russie parce qu'il y a une continuité territoriale avec l'ancien empire. Mais des problèmes identitaires beaucoup plus profonds. Ceci dit, je ne pense pas que ce souvenir de l'URSS obère désormais grandement la politique étrangère russe. Ce qui me frappe beaucoup, au contraire, c'est que la Russie, à tout point de vue, que ce soit au plan économique, au plan de politique étrangère, tourne la page de l'URSS. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée, alors évidemment, en se basant sur le passé, mais je ne pense pas que la politique étrangère russe aujourd'hui soit guidée par un souvenir ou un projet de reconstitution. Et même les projets d'union douanière en ex-URSS sont très différents en réalité de ce qu'était l'URSS. On n'est pas dans une logique de marché, mais non pas dans une logique impériale. Donc je crois qu'il ne faut pas surestimer ça. Il y a un fond historique très prégnant, mais résumer la politique étrangère russe, ou résumer la psychologie de Poutine, ou l'origine de Poutine, à quelque chose de vaguement soviétique, c'est très réducteur finalement.
Alors Anne de Tinguy, ensuite Thomas Gomard.
Oui, alors ça, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Arnaud Dubien. Il n'est pas question de reconstituer l'URSS et d'avoir un projet soviétique. Et ça, ce sont des termes qui vraiment ne conviennent plus du tout.
Il y a quand même une envie de puissance et de peser sur la scène internationale.
Oui, ce que souhaite la Russie, c'est d'avoir une influence qui soit prépondérante dans, je dirais, une partie, parce que encore une fois, l'espace post-soviétique n'est pas monolithique. Et c'est très important pour la Russie d'avoir une influence prépondérante dans cet espace parce que ça lui donne une stature, un statut dans la vie internationale face à l'Europe, face aux États-Unis. Et donc là, on rejoint la problématique de l'influence et de la puissance, mais pas de l'Union soviétique et du soviétisme.
Bon, Thomas Gomard, Vladimir Poutine et la Russie ont fait le deuil de l'URSS.
Ce qui est frappant quand on voit l'usage de la mémoire, l'usage politique de la mémoire qui est fait par Poutine, c'est que c'est une sorte de tentative, plus ou moins à droite, de jouer à la fois sur la mémoire soviétique et sur la mémoire impériale. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup, en termes médiatiques, focalisé sur les formes de retour à l'URSS, l'hymne, des choses comme ça. Alors qu'en réalité, il y a aussi, je dirais, une volonté de cultiver la mémoire impériale.
Parce que l'hymne soviétique a été repris avec des paroles différentes.
Oui, pardon, effectivement, je suis trop elliptique, mais vous avez raison. Donc, de mon point de vue, c'est beaucoup plus le problème de Poutine, c'est au fond de redonner à la Russie une position, notamment en termes de concert européen, conforme à la lecture qu'il fait de l'histoire russe. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est intéressant de voir ce qui a été fait en 15 ans, c'est-à-dire de partir du point bas de la puissance russe, 1998. Hein, c'est toujours utile de rappeler que la Russie, à ce moment-là, est quasiment incapable d'agir dans les Balkans et en particulier au Kosovo, que la Russie fait défaut en 1998 et que 15 ans plus tard, elle se retrouve dans une situation où elle est créditrice, où effectivement elle occupe une position tout à fait décisive sur un certain nombre de dossiers, au premier rang desquels figure le dossier syrien. Et ça, je crois que ça s'explique par trois raisons principales. D'abord, Poutine a travaillé, je dirais, les deux extrémités de la chaîne du pouvoir. D'un côté, l'appareil militaire et les relations civilo-militaires, qui ont été au fond son principal chantier d'emblée, de 2000 à 2008. Et puis, parallèlement, l'autre extrémité de la chaîne de pouvoir, c'est la réorganisation du secteur énergétique qui a été mis à contribution pour alimenter, si vous voulez, la Russie et lui redonner une vigueur économique. Et puis, la troisième raison, qui, à mon avis, est assez souvent oubliée, c'est aussi, parallèlement, le désarroi occidental et en particulier le désarroi européen. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à lire le retour d'influence de la Russie sans voir à quel point le discours européen a perdu de sa substance, a perdu de sa vigueur. Et au fond, on a l'impression aujourd'hui, peut-être un peu excessive, d'une Russie puissante parce que les Européens sont dans une période de doute.
Alors, on a l'impression d'une Russie puissante. Ça dépend dans quel secteur. Arnaud Dubien, on parle beaucoup depuis assez longtemps désormais des BRICS, les pays émergents. Et on oublie assez souvent de dire que la Russie fait partie de ces pays émergents. Est-ce que ça n'est pas difficile à vivre pour un pays qui a été l'autre grande puissance mondiale d'être considéré comme un pays qui est en train d'émerger sur la scène internationale? Ça paraît extrêmement compliqué, j'imagine, à faire passer dans l'opinion russe.
Non, je crois que personne ne considère vraiment la Russie comme un pays émergent. C'est un pays réémergent en réalité, c'est une puissance réémergente et personne ne s'y trompe. La Russie part de positions tout à fait différentes de l'Inde, même de la Chine, de l'Afrique du Sud ou du Brésil. La Russie avait un potentiel industriel, scientifique extrêmement puissant, très particulier certes, fondé sur un fondement économique très particulier mais bien réel. La Russie, Thomas Gomard l'a souligné, a traversé un trou noir finalement d'une quinzaine d'années, d'une grosse dizaine d'années en tout cas, et la Russie réémerge sur d'autres bases. La Russie a un projet politique, un projet géopolitique, c'est ça effectivement qui nous distingue, je dirais, nous Européens. La France a encore une ambition géopolitique, mais les Européens dans leur ensemble n'ont plus vraiment de vision géopolitique à long terme.
Comment est-ce que vous le qualifieriez ce projet géopolitique de la Russie?
Il est très simple, c'est être puissant. Être puissant dans un monde perçu comme dangereux, évoluant rapidement, très incertain. La Russie cherche à consolider les bases de sa puissance, à reconstituer des bases différentes, des bases économiques, à nouer de nouveaux partenariats. De ce point de vue, ce qui est très frappant depuis quelques temps, c'est un discours très condescendant vis-à-vis de l'Europe et une volonté de réorientation, en tout cas de rééquilibrage de la politique étrangère vers l'Asie, qui est perçue à juste titre, semble-t-il, comme un nouveau foyer de croissance économique, mais également vers les BRICS. La Russie se réajuste son discours, son positionnement politique étranger en fonction des évolutions qu'elle observe sur la scène internationale, de façon très réactive finalement, très pragmatique.
Alors cette volonté de puissance, elle passe notamment par l'augmentation des dépenses militaires. Anne de Tinguy, Vladimir Poutine, en février 2012, au moment où il revenait au pouvoir pour son troisième mandat, avait écrit, publié, qui avait été traduite en France sur le site Atlantico, pour expliquer un petit peu quelle était la stratégie du pays en matière militaire notamment. Il disait notamment ceci: notre pays doit développer de manière suffisante son potentiel militaire dans le cadre d'une stratégie de dissuasion. C'est une condition indispensable pour que la Russie se sente en sécurité et que nos partenaires écoutent les arguments de notre pays. Ça veut dire que en Russie et en particulier pour Vladimir Poutine, si on n'est pas puissant, si on n'a pas une force militaire, on considère qu'on ne peut pas peser sur la scène internationale. Ça passe forcément par ça.
Alors là, il y a un point, plusieurs, mais un point très important que vous avez souligné. Vous avez dit, Monsieur Poutine veut que le monde extérieur écoute la Russie. Et ça, je crois que c'est très, très important. Plusieurs choses. D'abord, Monsieur Poutine veut moderniser les forces armées, l'outil militaire de la Russie, persuader en effet que On écoutera la Russie si elle a une certaine puissance, notamment dans le domaine militaire, dans le domaine économique aussi. Thomas Gomard l'a dit, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne voudrais pas surestimer la question de la modernisation de l'outil militaire, parce qu'il faut rappeler que après 1991, c'est-à-dire l'effondrement de l'Union soviétique, l'armée soviétique, l'armée rouge, était dans un état absolument abominable, à la fois sur le plan social, sur le plan technique, enfin dans tous les domaines. Et que pendant toutes les années 90, les années Yeltsin, pour des raisons qui étaient très largement budgétaires, les autorités russes n'ont pas consacré à la modernisation de l'outil militaire des sommes qu'ils auraient pu ou dû y consacrer s'ils avaient voulu moderniser et restaurer cet appareil.
Donc on serait davantage aujourd'hui dans une remise à niveau, davantage que dans une vraie ambition de...
Non, on est dans une vraie ambition, mais en même temps, il ne faut pas en conclure que la Russie a tout de suite des ambitions guerrières. Si vous voulez, il y a des choses qui sont... En fait, dans ce que vous avez dit, c'est une lecture politique de la modernisation de l'outil militaire, et ça, c'est très important. Alors, n'oublions pas qu'il y a eu la guerre en Géorgie, mais malgré tout, je pense que c'est à la fois une volonté d'assurer la sécurité de la Russie et à la fois la volonté d'être écouté par le reste du monde. Et ça, je crois que c'est extrêmement important.
Je cite à nouveau la fin des propos de Vladimir Poutine. C'est une condition indispensable pour que la Russie se sente en sécurité et que nos partenaires écoutent les arguments de notre pays. Thomas Gomard.
Non, moi, je pense que c'est un sujet tout à fait décisif en réalité, cette relance de la dépense militaire qui en plus est à l'origine d'un clivage assez profond au sein du groupe dirigeant russe, c'est-à-dire que vous avez un courant qui l'emporte actuellement, qui considère qu'il faut relancer de manière très significative la dépense militaire au détriment d'un courant qui pense qu'il faut investir sur les infrastructures ou sur la dépense sociale. La deuxième chose à dire, c'est que vous avez un certain nombre de publicistes à Moscou qui ont construit un discours expliquant que la Russie est toujours victorieuse sur le plan militaire, que effectivement la campagne de Géorgie, de ce point de vue-là, de 2008, est un point extrêmement important parce qu'elle replace la Russie en situation de domination au Caucase et montre aussi une sorte de faiblesse au fond occidentale. Sauf que ça s'est heurté à quelque chose, et c'est peut-être une manière de faire le lien avec le dossier syrien, ça s'est heurté à la campagne de Libye, où les Russes ont pris conscience de deux choses. C'est d'abord qu'ils ont eu beaucoup de chance en Géorgie en 2008. C'est que leur manière de manœuvrer, quand on fait les retours d'expérience, il y a beaucoup de choses à dire, et que c'est un petit pays et avec une asymétrie extrêmement forte. Mais qu'en revanche, les armées russes seraient proprement incapables, ne serait-ce que de concevoir en termes diplomatiques, de mener en termes militaires et de conclure en termes politiques, une opération comme celle que les Britanniques, les Français, avec le soutien américain, ont causée en Libye. Et ça a créé beaucoup d'énervement à Moscou. Le troisième point, c'est que je pense qu'il faut prendre ça tout à fait au sérieux pour la raison suivante, c'est que nous sommes dans un contexte où les Russes relancent leurs dépenses militaires, à l'instar des principaux pays d'Asie, dans des proportions tout à fait significatives. Et pendant ce temps-là, les Européens sont en train de désarmer de manière tout aussi spectaculaire, et en particulier un pays comme l'Allemagne. Autrement dit, je pense qu'il y a des choses tout à fait fines à analyser sur le rapport entre la Russie et l'Allemagne, et le fait que le désarmement allemand, que la volonté critique de l'Allemagne vis-à-vis de l'OTAN, est quelque chose, à mon sens, encouragé à Moscou. Et qu'aujourd'hui, il y a une question à se poser, effectivement, sur la capacité des Européens, et en particulier dans le cadre de l'OTAN, de répondre à ce qu'on appelle dans notre jargon l'article 5, c'est-à-dire la défense territoriale de l'OTAN, face à des menaces éprouvées par des pays de l'OTAN, en premier lieu les Baltes, voire la Pologne.
Donc Arnaud Dubien, est-ce que demander aujourd'hui à la Russie de s'engager dans un processus de désarmement, c'est faire une erreur d'analyse typiquement occidentale, et ça revient à ne pas comprendre ce qu'est aujourd'hui la politique étrangère de la Russie ?
Oui, absolument. La lecture que font les dirigeants russes des relations internationales actuellement est tout à fait différente de celle qu'on fait en Europe, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Thomas Gomard. La Russie a une vision de son environnement géopolitique beaucoup plus menaçante, au sud avec l'Afghanistan, une Chine qui n'est pas une menace officiellement, au contraire, c'est un partenaire stratégique, il y a beaucoup de non-dits et beaucoup d'interrogations sur long terme, il y a toujours la volonté de maintenir une parité stratégique avec les États-Unis, et donc il est tout à fait, et de surcroît, la possession d'un arsenal nucléaire stratégique important et presque à parité avec les États-Unis est considérée comme une assurance vie pour la Russie, mais également une garantie de son statut sur la scène internationale. Donc il est absolument inenvisageable de demander à la Russie de diviser par deux, par trois ses arsenaux nucléaires. Il y a eu un certain nombre d'avancées en 2010, ça a été rappelé, mais ce dossier-là, les Russes ne sont pas prêts à aller beaucoup plus loin, et de toute façon, ils lient ce dossier-là à celui de la défense antimissile.
Arnaud Dubé, est-ce qu'il est de la même manière inenvisageable de demander à la Russie d'infléchir sa position sur le dossier syrien? Est-ce que là aussi, c'est un problème de compréhension, de question de sécurité, d'intégrité territoriale pour la Russie, ce dossier syrien? Est-ce que c'est quelque chose qui rendent vraiment en compte?
Non, c'est pas une question d'intégrité territoriale, c'est une question de principe en réalité. Les Russes ont une lecture très traditionnelle, très australienne des relations internationales. Ils ont considéré qu'ils ont été dupés dans l'affaire libyenne, que le mandat de l'ONU, la non-abstention russe sur la résolution 1973 s'est transformé finalement en mandat de co-belligérance. Surtout, les Russes considèrent que les scénarios qui s'esquissent pour l'après-Assad sont beaucoup plus menaçants pour la région, pour la sécurité internationale et éventuellement pour le flanc sud de l'ex-URSS. Donc ils n'ont aucune, et contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre assez souvent ici ou là, ce n'est pas du tout une question d'intérêt économique, de sympathie particulière vis-à-vis du régime Assad ou que sais-je encore d'une base militaire russe à Tartus. C'est quelque chose c'est une lecture conservatrice des relations internationales qui est faite à Moscou, et c'est une affaire de principe, aussi surprenant que ça puisse paraître.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut se dire, Thomas Gomard, que les choses, s'agissant du dossier libyen, auraient peut-être été différentes si Vladimir Poutine avait été président et non pas Premier ministre? Est-ce que c'était un peu plus compliqué pour lui d'appliquer sa politique?
C'est une question très difficile, ça. Moi, je n'ai pas d'éléments de réponse. Il y a eu un débat là-dessus sur le positionnement de Medvedev. Moi, je pense très difficile avec les éléments dont je dispose, je ne suis pas capable de le trancher. En revanche, sur la Syrie, si vous voulez, ce qui me paraît tout à fait clair, c'est de la constance de la lecture russe. C'est-à-dire qu'au fond, le dossier syrien est analysé à Moscou à travers le prisme suivant, qui est de dire nous avons affaire à une poussée sunnite et qu'au fond, il y a une sorte de constance à observer de la part de la Russie depuis le 11 septembre jusqu'aux événements de Syrie. Et c'est ça qui rend les choses difficiles, c'est que je pense qu'il y a une convergence. Il y a eu une convergence idéologique entre Russes et Américains sur une partie du mandat Bush sur ces questions-là. Et il y a une difficulté, notamment dans le cadre franco-russe, qui s'exprime parce que, au fond, les Russes disent « Mais comment se fait-il que vous frappez au Mali les gens que vous voulez armer en Syrie ?» Et donc là, il y a effectivement une question tout à fait clivante sur la nature de la menace. Ensuite, sur la question, je dirais, des principes, vous avez de la part de la Russie une contestation de plus en plus ouverte de ce qu'on appelle la responsabilité de protéger, le R2P dans le jargon, qui est un concept onusien, forgé dans un cadre onusien, qui a été utilisé pour justifier par exemple les formes d'intervention en Côte d'Ivoire, évidemment en Libye, et aujourd'hui ce concept est tout simplement considéré comme quasiment obsolète à Moscou et à Pékin. Et effectivement, là, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement clivant dans la communauté internationale. Et puis le dernier point, c'est effectivement pas forcément des questions d'intérêt économique, mais il y a quand même une relation, une coopération militaire extrêmement étroite entre Damas et Moscou qui existe depuis les années 50, avec des mariages mixtes, qui font aussi qu'il y a une proximité, je dirais presque sociologique, qu'on n'a pas forcément, qu'on a un peu de mal à percer, à mon sens.
Anne de Tanguy, puisque la question qu'on pose ce soir, c'est jusqu'où Poutine est-il prêt à en découdre? Jusqu'où le président russe, jusqu'où la Russie est-elle prête à aller pour défendre ses principes, en particulier en Syrie?
Alors, si vous le voulez bien, permettez-moi de revenir un petit peu en arrière, parce que on a parlé de la puissance de la Russie. Je ne sais plus si c'est Arnaud ou Thomas ou vous ou moi qui avez aussi souligné un peu nous tous les incertitudes très grandes qui existaient, qui pesaient aujourd'hui sur la Russie et sa politique étrangère. En fait, je pense qu'il faut quand même voir un petit peu les grandes lignes. C'est-à-dire voir que, certes, il y a cet objectif de puissance, et ça, je suis complètement d'accord avec ça, mais qu'en même temps, la Russie n'a pas cette puissance qu'elle voudrait avoir. C'est-à-dire que depuis 20 ans maintenant, elle a été confrontée à un certain nombre de déboires, qui ont été des déboires qui, pour certains d'entre eux, ont été très humiliants, à la fois au sein de l'espace post-soviétique, en particulier face à l'Ukraine, mais pas seulement, face aux pays occidentaux. Je pense notamment à l'élargissement à l'est de l'Alliance Atlantique, qui est resté comme un point qui a cristallisé toute l'hostilité de la Russie à l'égard des pays occidentaux. Et on est arrivé en définitive, alors il y a un chercheur russe qui a magnifiquement exprimé ça au milieu des années 2000 en disant finalement la Russie voulait être voulait avoir la coprésidence du COB occidental, or elle s'aperçoit que non seulement elle n'est pas associée à la décision, mais qu'elle est tenue à distance.
Alors justement, je reviens à mon dossier syrien, est-ce que ça n'est pas ça le plus inquiétant, Anne de Tinguy, c'est-à-dire d'avoir un pays qui se voudrait puissant, mais qui ne l'est pas et qui peut s'enferrer dans certaines décisions et dans certaines erreurs, au lieu de jouer, pourquoi pas, un rôle central sur le dossier syrien. La Russie aurait aussi pu profiter de cette crise pour se réaffirmer sur la scène internationale en jouant le rôle d'arbitre, par exemple.
C'est exactement la conclusion que je voulais avoir et pour arriver à ce dossier syrien, qui est un dossier tragique, mais qui, pour la Russie, je suis persuadée, restera un dossier extrêmement douloureux, parce qu'en réalité, il y a dans le dossier syrien, pour la Russie, tout ce qu'on a dit est juste et il y a encore beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a au sein du dossier syrien des craintes, des peurs de la part de la Russie qui sont très importantes. Regardons par exemple le rôle que joue l'OTAN, c'est pas en Syrie bien sûr, c'est en Libye, mais la Russie redoute de voir l'Alliance Atlantique jouer un rôle bien au-delà de sa zone traditionnelle de compétences et pourquoi pas un jour encore plus loin dans l'espace post-soviétique, on en a parlé au moment de l'éventuel élargissement à l'Ukraine et à la Géorgie. Il y a aussi la question du changement de régime imposé de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose de totalement inacceptable et incompréhensible aux yeux de la Russie. Il y a une très grande méfiance à l'égard des desseins géopolitiques américains. Et puis, il y a une très grande peur de ce que, finalement, un grand chambardement pourrait provoquer. On a parlé des risques de déstabilisation générale au Moyen-Orient, d'une peur, d'une déstabilisation. Tout ça, en effet, a conduit la Russie dans une situation dans laquelle elle s'est enferrée, alors qu'elle avait tous les moyens pour être médiateur.
Arnaud Dubien, on s'intéressait ce soir à la politique étrangère de la Russie. On n'a pas parlé de politique intérieure. Faut-il faire un lien entre les deux sujets? Est-ce qu'on pourrait considérer que la politique extérieure de la Russie sert également à assurer certaines formes de contrôle à l'intérieur de la Russie et sur la société russe?
Contrôle, je crois que le terme est exagéré, mais il est certain que la rhétorique anti-américaine, par exemple, de la fin 2012, était en parfaite harmonie avec le fond de l'air politique à Moscou. Juste pour revenir sur l'affaire syrienne, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Anne de Tinguy sur le caractère inacceptable du changement de régime imposé à l'extérieur, c'est un point déterminant. En revanche, est-ce que la Russie se trompe? Est-ce que la Russie a perdu un rôle central dans l'affaire syrienne? Je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations dans notre propre capitale sur ce sujet-là, sur les scénarios de l'après-Assad et les évolutions sur le terrain, récentes en tout cas, même si on ne préjuge pas de ce qui peut arriver prochainement, sont beaucoup plus favorables aux intérêts russes qu'il y a 5 ou 6 mois. Donc, encore une fois, je serais moins sévère et moins pessimiste sur les positions russes au Moyen-Orient sur l'affaire syrienne. Je crois que la Russie a été cohérente, Thomas Gomard l'a rappelé. Elle a des positions qu'elle suit de façon très, très cohérente et je ne suis pas certain du tout qu'elle soit perdante de ce point de vue-là.
Alors je vais reposer la question que je vous posais, Arnaud Dubien, à Thomas Gomard de manière peut-être un petit peu différente, sous l'angle de la cohérence, et ce sera la conclusion pour ce soir. Est-ce qu'on peut parler de cohérence entre la politique étrangère et la politique intérieure de la Russie? Est-ce que les deux sont totalement imbriqués, l'une déteint sur l'autre et inversement?
Je pense qu'il y a une correspondance entre la nature du régime politique, hein, qui est, je dirais, 2/3 autoritaire, 1/3 démocratique, et la politique étrangère de la Russie, qui est au fond sur une logique de puissance, comme on l'a dit, qui considère que les affaires internationales doivent être gérées dans le cadre d'un concert auquel participent en premier lieu les grandes puissances, d'où l'importance accordée au Conseil de sécurité des Nations Unies et puis à des forums type le G20, dont la Russie assure aujourd'hui la présidence pour cette année. Autrement dit, je crois qu'on a, si vous voulez, un régime qui considère effectivement que le monde à venir va être un monde brutal et qui s'y prépare.
Merci beaucoup, ce sera notre conclusion, la vôtre en tout cas, Thomas Gomard. Merci Anne de Tinguy et Arnaud Dubien d'avoir participé à cette discussion sur la politique étrangère de la Russie. Demain, nous changeons de sujet comme tous les jours. Financement participatif de la culture, système vertueux ou pervers? C'est la question que nous poserons à partir de 18h20 dans Du Grain à Moudre. N'hésitez pas, vous le savez, je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez le faire sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre.